En fait, comme c'est aussi aujourd'hui, surtout, mon dernier culte avec les jeunes que je remercie pour leur participation cette année, leur présence, leur amitié, tout simplement, j'avais décidé de prendre un texte une lecture qui me tienne particulièrement à cœur. Et donc, c'est ce qu'on va entendre. Et il se trouve en fait que c'est seulement en préparant la prédication, que je me suis rendu compte que je n'avais jamais prêché sur ce texte. Ça fait quand même pas mal d'années que, voilà, pas énormément, mais quand même pas mal d'années que je fais des prédications. Et bien voilà. Et donc, c'était l'occasion d'y travailler. Et bien sûr, on y réfléchira ensemble tout à l'heure. Alors, à la Pentecôte, nous avons regardé comment l'Esprit Saint a suscité, vous vous souvenez, la naissance de l'Église. Vous vous souvenez, on l'a fait par Zoom, mais on l'a fait. Et c'est raconté au début je fais une petite introduction aussi pour les jeunes. C'est raconté au début du livre des Actes, et le livre des Actes des Apôtres a le même rédacteur que l'Évangile selon Luc. Donc on va l'appeler Luc. Et puis, dans les chapitres suivants, eh ben, on nous raconte la suite de l'Église, la suite des débuts de l'Église, la vie des premières communautés, d'abord des communautés judéo-chrétiennes, puis l'adhésion des craignants Dieu, originaires d'autres nations, d'autres ethnies. Il y a des baptêmes par centaines, puis par milliers, mais aussi, dans le même temps, eh bien, il commence à y avoir le rejet des communautés chrétiennes par les Juifs. L'expulsion des judéo-chrétiens des synagogues, le début des persécutions et aussi, bien sûr, le début des conflits entre, même à l'intérieur des débuts du christianisme, qui s'appelle peut-être pas tout de suite comme ça, mais même à l'intérieur déjà des conflits entre les différents courants. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose donc de nous intéresser à un événement fondamental, fondamental dans l'histoire de l'Église des premiers siècles et, je crois, fondamental dans l'histoire de l'Église universelle. Car c'est un événement sans lequel, peut-être, l'Église se serait développée de manière très différente, ou pas du tout. Cet événement, Luc a tellement conscience de son caractère fondamental que dans le livre des Actes, qui est écrit entre les années 80 et 90, il le raconte trois fois, au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26. Et nous allons entendre le premier de ces trois récits, le plus détaillé. Mais avant, nous allons entendre la même histoire racontée par celui à qui elle est arrivée. C'est une histoire très probablement vraie. Elle ne s'est peut-être pas passée exactement comme elle est racontée, mais elle a certainement eu lieu. Elle s'est passée au 1er siècle, dans les années 32 à 35, à peine quelques années après la crucifixion de Jésus, la résurrection et la première Pentecôte. Les premiers chrétiens, qui ne s'appellent donc pas encore comme ça, ils s'appellent entre eux ceux qui sont de la voie, pas avec un X, la voie, le bon chemin. Ils sont presque tous juifs. Ils continuent à fréquenter les synagogues. Mais justement, comme ils commencent à y parler de la voie, en affirmant que Jésus était bien le Messie attendu, le Christ, et même en parlant de la résurrection, ils sont de plus en plus mal vus par les autorités juives, qui quelquefois les persécutent, avec ou sans l'aide des Romains. Et dans les années 32 à 35, celui à qui cette histoire est arrivée avait lui aussi environ 35 ans. C'était un homme cultivé qui parlait grec et latin, qui savait l'hébreu, un pharisien juif, fils de pharisien, c'est-à-dire quelqu'un qui a été élevé dans la tendance la plus stricte de la religion juive. Et il est aussi citoyen romain et donc il a probablement deux noms, deux prénoms, un prénom juif, Saul, Shaoul, et que je dirais Saul, excusez-moi, je sais qu'il y a différentes façons de prononcer, on en a parlé tout à l'heure, qui est le prénom du premier roi d'Israël, et un prénom romain, Paulus. Au début, bien sûr, en tant que juif, il utilise uniquement le premier, Shaul, Saul. Et Saul est très attaché à la foi de ses pères, au point d'en être fanatique. Il est déjà connu à l'époque comme persécuteur. Son nom seul fait peur. Il a déjà participé à une mission de juifs hellénistiques, c'est-à-dire de juifs de langue grecque. Une mission qui a déjà bien marché en Syrie, où il a raflé pas mal de monde. En fait, il s'agissait d'aller dans les synagogues pour repérer ceux qui parlent du Christ, pour les faire exclure et en ramener éventuellement certains comme prisonniers à Jérusalem. Alors Saul est un homme très sincère, mais son fanatisme le rend bien sûr intolérant. On verra pourquoi tout à l'heure. Pour l'instant, il est en route avec une petite troupe. Le grand prêtre de Jérusalem lui fait tellement confiance qu'il lui a donné une lettre de recommandation pour les prêtres des synagogues de Damas pour qu'il l'accueille et le laisse faire son enquête et ses rafles. Donc, l'événement lui-même se passe dans les années 35-37. Il a été raconté, re-raconté, oralement d'abord, puis par écrit. Et nous allons entendre donc deux lectures, deux récits qui racontent cet événement. Le premier est fait par Saul lui-même. Entre-temps, il a changé de nom. Il a repris son nom romain de Paulus, Paul. Et il écrit 20 ans plus tard, à peu près, au moins 20 ans plus tard, dans les années 57-59, 20 ans après l'événement lui-même. Et le deuxième est écrit encore plus tard, comme je l'ai dit, entre 80 et 90, par l'auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des Apôtres. Nous allons entendre ces lectures, mais d'abord, nous prions. Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, vie dans notre mort. Tu ne la confies aujourd'hui, permet qu'elle nous renouvelle et nous garde dans l'amour de Jésus, notre Sauveur. Amen.
Dans les lettres de Paul aux Galates, au premier chapitre, nous allons lire les versets 11 à 24. Je vous le certifie, mes frères, la bonne nouvelle que j'ai annoncée pour ma part n'est pas simplement humaine, car moi-même, je ne l'ai pas reçue ni apprise d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de la façon dont je me conduisais autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je m'acharnais contre elle. Dans le judaïsme, je progressais mieux que beaucoup de juifs de mon âge, car je débordais d'une passion jalouse pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, pour que je l'annonce comme une bonne nouvelle parmi les non-juifs. Aussitôt, sans consulter personne, sans même monter à Jérusalem pour voir ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et j'ai demeuré 15 jours avec lui. Puis je n'ai vu aucun autre apôtre, sinon Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, je le dis devant Dieu, je ne mens pas. Je me suis ensuite rendu dans les contrées de Syrie et de Sicile. Quant aux églises du Judée, celles qui sont dans le Christ, elles ne me reconnaissent pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant comme une bonne nouvelle la foi contre laquelle il s'acharnait. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.
Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, nous allons lire les versets 1 à 21. Saül respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, Entre dans la ville, on te dira quoi faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et, dans la maison de Judas, demande un dénommé Saül de Tarse. » En effet, il prit, et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, et ici, il a les pleins pouvoirs de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois, aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois ainsi rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là, et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ?»
Voilà, nous venons d'entendre, raconté de deux manières différentes, à deux époques différentes, et par deux personnes bien différentes, un des événements les plus importants de l'histoire de l'Église. Et je précise que cet événement, qu'on appelle le plus souvent la conversion de Paul, voire même de Saint Paul, sur le chemin de Damas, cet événement est tellement important qu'aujourd'hui, ce que j'en dirais, c'est rien par rapport à tout ce qu'on peut en dire. Il ne faudra pas m'en vouloir, c'est forcément réducteur. C'est le modèle de ce qu'on appelle un récit de conversion. Conversion. En hébreu, revenir, shuv. Revenez, revenez à Dieu, dit Ésaïe. Changer radicalement, métanoïa en grec. Dans les Actes des Apôtres, à la même époque, on trouve deux autres récits de conversion, celle de l'eunuque éthiopien qui a déjà eu lieu, et tout de suite après celle-ci, celle du centenier romain, Corneille, qui va être baptisé par Pierre. Donc l'histoire des églises, bien sûr, y compris la nôtre, est remplie de conversions, plus ou moins bruyantes ou discrètes, plus ou moins spectaculaires selon les cas. Plus la situation d'origine est dramatique et négative, comme celle de Saul, plus la conversion, bien sûr, sera impressionnante. Mais posons-nous la question aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une conversion ? C'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir l'occasion d'y réfléchir avec vous, que je vous ai proposé ces lectures. D'abord, bien sûr, il y a plusieurs sortes de conversion. Se convertir, ça peut vouloir dire changer de religion ou même de confession, ou découvrir une religion, y adhérer. Ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, changer de vie, changer tout court. Tout à l'heure, nous avons dit une prière de conversion, ce qui montre bien que la conversion, pour nous, n'est pas un événement isolé qui se produit une fois, mais qui doit quelque chose qui va se reproduire. Mais je voudrais aujourd'hui qu'on se demande ce qui est à l'origine d'une conversion. Paul a sa réponse, bien sûr, et nous l'avons entendue. Il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Il le dit de manière beaucoup plus discrète que Luc. Il n'y a ni voix ni vision, mais il le dit très clairement. Sa conversion, pour lui, est uniquement un acte de Dieu. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Alors, pour essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, je voudrais prendre un autre exemple de conversion dont nous avons tous entendu parler, je pense, sans forcément en connaître l'histoire. Je pense aux paroles du cantique « Amazing Grace ». Ça va ? « J'étais mort, maintenant je vis. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Mais je pense surtout à l'auteur de ces paroles, qui ont été écrites au XVIIIe siècle, en Angleterre, par le révérend John Newton. Aucun rapport avec le savant Isaac Newton, qui a découvert la gravitation universelle. John Newton, comme j'ai dit, le révérend John Newton, mais il n'a pas toujours été un homme d'église, pas du tout, ni même un croyant. Pendant la première partie de sa vie, cet Anglais, capitaine de bateau, était capitaine de bateau et pas de n'importe quel bateau. Il gagnait sa vie en faisant le commerce des esclaves. Il allait les chercher en Afrique et il les amenait en Amérique du Nord. Et puis, voilà, et ça lui posait apparemment pas beaucoup de problèmes. Mais en 1748, pendant un violent orage, c'est formidable les orages, pendant un violent orage, il a eu tellement peur qu'il s'est mis à prier, en promettant à Dieu d'arrêter cette atroce activité si son bateau et lui-même et son équipage, et peut-être même sa cargaison, étaient sauvés. Alors il a quand même pris le temps de la réflexion, parce qu'il l'a définitivement arrêté seulement 6 ans plus tard. Il fallait peut-être le temps. Bon. Et puis il a commencé des études de théologie, et il a beaucoup milité pour l'abolition de l'esclavage, et je rappelle que ça a été intervenu peu de temps après sa mort, je crois, en 1807. Si je parle de lui aujourd'hui, ce n'est pas à cause du mouvement Black Lives Matter, même si je pense que ce mouvement est très important. C'est parce qu'il me semble que la manière dont sa conversion s'est passée peut nous aider à comprendre le fonctionnement d'un grand nombre de conversions, et peut-être même, peut-être pas de toutes. Si John Newton, quand il a eu peur et qu'il s'est mis à prier, s'il a juré d'arrêter de transporter des esclaves, qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'il savait bien, au fond, et depuis, sans doute depuis très longtemps, il savait bien que c'était mal. Il le savait. Il savait qu'il gagnait de l'argent de manière ignoble. Il savait que les personnes qu'il transportait étaient des êtres humains à part entière, des gens dont il était en train de détruire la vie. Il savait en fait qu'il commettait un crime, de multiples crimes, à chaque voyage. Mais il ne voulait pas le savoir. C'était un homme divisé, partagé. Il faisait taire, de son mieux, et visiblement il y arrivait, en tout cas pendant longtemps, la voix de sa conscience. Il refoulait, avec violence même, le sentiment de fraternité qu'il aurait obligé à changer radicalement, de façon de penser, de façon de vivre. Ce sentiment qu'il aurait obligé à se convertir, il n'en voulait pas. Il a fallu ce choc, cette grande peur, pour l'obliger à être enfin sincère avec lui-même, pour le libérer du mensonge et lui permettre de retrouver son unité intérieure, son unité tout simplement, lui permettre de vivre et d'aimer comme il le désirait peut-être au fond depuis si longtemps, comme il en avait besoin, en le sachant, sans le savoir plutôt, ou en tout cas en ne voulant pas le savoir. Alors bien sûr, la conversion de Paul est très différente, ne serait-ce qu'à cause du contexte historique. Et pourtant, si on regarde non pas ce qui est dit, mais d'abord ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un fanatique, oui, mais pourquoi est-ce qu'il est fanatique ? S'il pense vraiment que les adeptes de ce prétendu Messie sont des fous qui disent n'importe quoi, des blasphémateurs, est-ce que ça vaut la peine de les pourchasser aussi violemment, d'aller les chercher dans les synagogues ? Par contre, s'il comprend, s'il sent, d'une manière ou d'une autre, déjà, que le message chrétien, ce message, remet en cause les fondements de son identité, sa place, les fondements de sa place dans la société, les fondements donc de sa vie en fait. S'il comprend dès le début qu'un Messie crucifié, qui fait encore ricaner les Romains, risque de remettre en cause non seulement le fonctionnement, mais aussi les fondements de la foi telle qu'il l'a toujours connue, la tradition, alors oui, on peut comprendre qu'il soit devenu fanatique, qu'il essaye d'étouffer en lui. Alors qu'est-ce qu'il essaye d'étouffer en lui? Peut-être le début d'un amour passionné, d'un amour interdit. C'est une hypothèse que je fais. On a tendance, quand on parle de conversion, on a tendance à opposer deux types d'expériences. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ceux qui ont une révélation lente, par exemple maturée, comme Augustin, par exemple, saint Augustin, même s'il y a aussi à un moment un choc. Et puis ceux qui auraient une révélation brutale, comme Paul ou comme le capitaine John Newton. Eh bien, je ne crois pas tellement à cette opposition. Je crois que les révélations brutales sont vécues par ces gens divisés qui essaient de ne pas entendre, qui ont essayé pendant longtemps de ne pas entendre quelque chose qu'ils savaient déjà, parce qu'ils savent aussi que ça va les remettre leur vie en cause, les mettre en danger. Et je pense en réalité que Saul avait tout compris depuis le début. Dès qu'il a entendu parler de l'histoire de Jésus, c'est une hypothèse que je formule aujourd'hui, il a entendu parler de la radicale nouveauté du message chrétien et il a tout compris, il le sait. Et il sait justement que ça, l'importance de ce message et tout ce que ça va bouleverser. Mais pour qu'il lâche prise, pour qu'il cesse de s'accrocher à la loi, il va falloir justement quelque chose d'énorme. Pour qu'il cesse d'être cet être divisé, qui lutte de toutes ses forces, je pense, au moins autant contre lui-même que contre ceux qu'il persécute. Il faut un choc violent, quelque chose qui le déstabilise totalement, quelque chose qu'il vit comme une fulgurance lumineuse et qui le laisse en effet, pour un temps, comme on l'a entendu, aveugle. Saul était un homme divisé, luttant de toutes ses forces pour défendre une tradition dont il avait compris combien elle risquait d'être remise en cause. Il avait compris ce qui, à l'époque, était pour lui un danger. Et son expérience de conversion est celle, comme souvent, d'une libération. Une libération qui va justement lui permettre de retrouver son unité en répondant à un appel qu'il ne voulait pas entendre. Et dès qu'il y a répondu, en entrant toujours plus profondément et très rapidement, et avec quelle capacité, dans la révélation du mystère du Christ Jésus. Au point que c'est quand même lui qui, dans quelques années, peu d'années après finalement, posera les bases de la théologie chrétienne. C'est lui qui écrira « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors bien sûr, deux questions peuvent se poser. La première, eh bien, évidemment, c'est celle du rôle de Dieu dans cette expérience de conversion. Cette expérience qui serait d'abord, comme je viens de le dire, une manière pour la personne de retrouver son unité, de réconcilier, en fait, ses aspirations les plus profondes. Alors, il est là, Dieu, ou il n'est pas là? Il intervient ou il n'intervient pas? Saul, Paul l'a dit, pour lui, tout est venu de Dieu. Eh bien, en tout cas, moi, je crois que Dieu est dans cette libération. Quelle que soit la manière dont on comprend la conversion, l'événement qui a créé la conversion, dans la libération que la conversion a permis, eh bien, Dieu se laisse trouver. Il est en tout cas présent là. Les interprétations sur, comment dire ça, l'origine, le choc révélateur, on peut dire, peuvent différer. Et pourquoi Dieu ne serait pas aussi à l'origine de ce choc? Mais quelles que soient ces interprétations, je pense que dans la libération causée par cette conversion, oui, Dieu est présent. C'est lui qui, d'une manière ou d'une autre, de manière spectaculaire pour les uns, moins violente pour d'autres, eh bien c'est Dieu qui accompagne et permet cette libération. Et même pour moi, et sans doute pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ que Dieu accompagne et permet cette libération, quelle que soit sa forme. Alors la deuxième question, c'est celle du rôle de l'Église dans cette libération. Je ne parle pas des institutions qui vont venir rapidement, ni d'aucun pouvoir qui les accompagne rapidement aussi. Je ne parle pas de ça. Je parle du rôle d'un simple croyant, Ananias. Et pour ceux qui connaissent bien les Actes, il ne faut pas confondre avec l'Ananias dont il est question au chapitre 5, le malheureux mari de la malheureuse Saphira. Ananias, qui est capable de reconnaître l'ancien ennemi comme un frère. Saul va fonder de nombreuses communautés. Il va faire vivre et grandir l'Église. Il va l'ouvrir aux non-juifs. C'est extraordinaire de sa part à lui. Mais finalement, quand on y pense, c'est peut-être assez logique, étant donné justement l'ampleur de la libération qu'il a vécue. Les limites que vivent encore les autres, les judéo-chrétiens, il ne les a plus, d'une certaine manière. Et donc c'est peut-être aussi ça qui lui permet d'ouvrir l'Église aux non-juifs. Tout en continuant à se sentir partie prenante du judaïsme, et nous savons par exemple qu'il exprime sa souffrance et son incompréhension devant la rupture dans la lettre aux Romains. Paul mettra au service du Christ la même énergie, on le sait, qu'il la mettait à le persécuter. On dit souvent, Calvin a dit que sa conversion avait transformé Saul en mouton, ce lion, ce tigre en mouton. Non, je ne crois pas du tout. Il est resté lui-même, mais son énergie s'est déployée autrement. Et souvent, d'ailleurs, quand on dit que les gens sont convertis, ça ne veut pas dire qu'ils changent fondamentalement, mais ils se retrouvent autrement. Eh bien, tout ça pour comprendre et assumer, comme dit Daniel Marguerat, ce qui lui est littéralement tombé dessus, eh bien, pour ça, il a fallu la médiation de l'Église qui l'accueille en le baptisant et en lui rendant la vue. Et je cite encore Daniel Marguerat, « Celui qui deviendra le grand Paul doit son insertion dans la communauté à un obscur croyant de Damas dont Luc nous a miraculeusement préservé le nom, Ananias. » Alors pour conclure, je voudrais dire, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois, nous n'avons pas tous la chance ou la malchance de vivre nos conversions avec la même fulgurance que Saul. Après quelques hésitations, j'ai choisi pour tout à l'heure, plutôt que le cantique Amazing Grace, dont la traduction française n'est pas très jolie, un cantique qui nous rappellera peut-être davantage la phrase de Paul « Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils ». Et contrairement à celles de Paul, peut-être parce qu'elles sont moins fulgurantes, nos conversions ne sont pas toujours définitives. Nous pouvons en vivre plusieurs, ou aucune, ou tardivement, ou partiellement, avant de parvenir à accepter cette libération qui peut nous faire retrouver notre unité. Mais Paul nous a appris que la conversion est un chemin désirable, car il donne un sens à notre vie et il nous permet de trouver en Dieu notre unité quand il plaît à Dieu, de révéler en nous son Fils. Amen.